Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour, nous sommes le 27 décembre et c'est l'heure du bilan. On fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant, comme dirait Jackie et Benji, Denneg, Marron. Alors on a commencé l'année avec Patti Smith le 1er janvier et ma première question était... Patti Smith, j'étais il y a quelques jours à New York, dans la loge de Bruce Springsteen, oui, mais dans sa loge, un tas de photos, Johnny Cash, Paul McCartney, John Lennon et vous-même. Ça vous fait plaisir ? Une année 2019 qui démarrait donc sur les chapeaux de roue et rien à voir avec Charline bien entendu. Et une année qui s'annonçait springsteenienne et qui fut springsteenienne avec la venue du boss au micro de Pop Pop Pop.
Hello, this is Bruce Springsteen. You're listening to Pop Pop Pop.
Et en 2020, spoiler alerte, je vous annonce une année plus springsteenienne que jamais. Mais avant ça, je vous propose de réécouter un Pop 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 avec un autre boss belge cette fois-ci et des créatures qui reprennent ça. Purple Rain, mais en VF, ce qui donne pluie violette. Ce maxi-pop avec François Damiens et les créatures du cabaret Madame Arthur, c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Paule.
À mes côtés, ma partenaire de jeu, Charline Roux, comme la roue sur laquelle fut roué le malheureux Damiens.
Bravo, merci de l'image, bonjour.
Bonjour Charline et bonjour François Damiens.
Bonjour Antoine, bonjour Charline.
Bienvenue
bonjour.
Dans
merci de me recevoir.
Ah bon, on est ravis de vous avoir, parce que vraiment ça fait 427
émissions.
J'imagine,
ouais, c'est des petits cadeaux du ciel.
Du ciel, carrément.
Carrément, bah oui.
Le ciel. Au menu de ce pop-up du jour, on va donc parler de foot. Non, alors pas exactement comme ça. Non, on va parler d'une fourmi qui joue au foot. Enfin, du nouveau film de Julien Rapneau qui s'appelle Fourmi, qui parle de foot. Et on en parle avec François Damiens, notre invité du jour. Mais avant ça, François, sachez qu'ici, il existe une question préliminaire. Une question qui peut faire encore plus mal qu'une réflexion de Jean-Claude Van Damme.
J'aime bien les belles choses. J'aime bien les belles femmes, les beaux hommes, ou j'aime bien les gens qui sont intelligents, ou j'aime même bien des nains qui savent bien peindre.
Des nains qui savent bien peindre.
Directement dans le vif du sujet.
Bien, nous y sommes. Et cette question, François Damiens, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture ? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses François Cizé, Damien Cizante, footballistiqueuses et même fourmillantes. Et parmi mes préférées, il y a celle du King Cantona.
Et la pop culture, je sais pas, c'est peut-être Jeff Koons. Hein.
C'est ce que vous voulez.
Au popcorn, au multiplex. et Jeff Koons dans le multiplex, devant un Robocop. Hein.
Jeff Koons qui utilise un multiplex. Un quoi ?
Dans un multiplex qui mange du popcorn.
D'accord, ok. Bon. Et pour vous, François Damiens ?
Moi, la pop culture, je dirais... Moi, ça m'évoque un souvenir. J'étais parti en Thaïlande quand j'avais 18 ans. Mm-hmm. Et j'avais un petit Walkman jaune Sony, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Mm, très bien.
Et j'avais acheté une cassette de David Bowie, mais les anciens David Bowie. C'était déjà dans les années 95 mm-hmm. et c'était des années 70. Et je l'écoutais en boucle, Blue Jean, toutes ces chansons... Et... Pour moi, c'est ça, la pop culture.
Le même petit Walkman Sony jaune que vous avez dans le film.
Exactement, ouais.
C'est vrai?
Ouais. À part que moi, il avait auto reverse. Et dans le film, il n'était pas auto reverse.
Ah.
J'avais le modèle au-dessus.
Ah.
Bah. Pour les jeunes qui nous écoutent, la cassette était donc l'ancêtre du CD, du MP3, et ça avait pour particularité de pouvoir être emballé avec un stylo.
Voilà. Merci, Charline, pour ces précisions.
Je vous en prie.
Alors la pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop Pop Pop, juste après She's My Sunshine, c'est un morceau de la chanteuse californienne Céleste. Sarah Est, She's My Sunshine, cet extrait de son album éponyme. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un photographe de charme semi-professionnel qui sait mettre ses modèles à l'aise.
T'es tendu comme une crampe.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, c'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha, c'est tout. Tu me dis oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Je suis pas à mon aise. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas.
Mais qui est-il, ce photographe de charme semi-professionnel? Et surtout, est-il toujours en activité? Réponse avec son pop portrait. Alors, votre pop portrait, François, c'est votre portrait, bien sûr, mais... Et c'est signé Charline...
Chut. Aujourd'hui, un invité obsédé par les gens, c'est lui qui le dit. Obsédé au point de vouloir les incarner, tous, enfin surtout les plus bancales, et les confronter à d'autres gens, tout en les filmant. Bref, un invité qui a hissé dans ses caméras planquées l'art de la gêne au sommet. Un grand intérêt et une énorme capacité à faire vivre ces gens que le cinéma ne se prive pas d'exploiter, qu'il soit directeur de la société belgo-égyptienne d'élevage de poulets.
Un bras vert pour la peau bas.
Dans SS117, qu'il soit caméraman dans Cowboy, qu'il soit le fameux Claudie Faucan de Dickeneck, ou membre technicien d'une team dédiée au sauvetage de donzelles en détresse.
En fait, on leur ouvre leurs yeux, pas leurs jambes.
Ça, c'est dans l'arnaqueur. Le genre de comédien dans un second plan a brillé plus fort que les premiers, acteur hilarant et drôlement touchant aussi, puisque c'est au premier plan et en jouant les papas qu'il a arraché des larmes et quelques frissons d'angoisse aussi, au spectateur ébahi et définitivement conquis, le père de Suzanne dans le film du même nom, papa Rodolphe Bellier dans la famille du même nom, Daddy Alain dans Les Cowboys de Thomas Bideguin et Danny Versavel, daron inquiet pour son quête que notre invité a également réalisé. C'est aujourd'hui parce qu'il est le père, tiens, d'un prodige du football que nous sommes ravis de recevoir François Damiens.
J'ajoute, François Damiens, que vous parlez le néerlandais.
J'explique que néerlandais, c'est un belge.
J'ai une petite réaction en néerlandais.
Je parle en néerlandais un petit peu. Je peux dire une autre phrase un peu plus sophistiquée.
Ouais, allez-y. Ouais.
La goutte qui fait déborder le vase. It is a drupal de big doot overloop.
Ah oui, c'est vraiment du néerlandais.
Voilà, on est... C'est horrible, mais avant que je gagne en plaques, un privé détective overloop.
La goutte qui fait déborder le vase.
Voilà. Je suis Jean Plaqueurs, un détective privé de métier.
D'accord, très bien. Alors, voilà. Ça ne me donne pas la réponse à la question que je posais un peu plus tôt. Claudie Faucan, est-il toujours en activité?
Bah ouais, il essaye. La photo, ça a toujours été un truc qui m'a accompagné de loin et puis de plus près ces derniers temps, parce que c'est vrai que je suis assez attaché aux clichés en général. Et de manière plus précise, les gros portraits, quoi, les portraits de face, quoi.
Plan.
Ouais, c'est ça. J'aime pas trop les filtres, en fait. Je travaille sans filtre.
Bien. Eh bien, enlève ta petite culotte, le temps que j'aille chercher le poney. La pop liste. François Damiens, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour ce qui est du livre, vous nous laissez le choix des biographies de navigateurs, dites-vous, sans préciser davantage. Charline, ce n'est pas la mer qui prend l'homme, paraît-il. Vous êtes d'accord avec ça?
Vous, la mer, vous a pris, je me souviens, c'était un mardi, précisément. Nous avons, enfin Antoine, arbitrairement choisi Vagabond des mers du Sud de Bernard Moitessier, qui à 27 ans est parti en solitaire à bord de Marie-Thérèse, une jonque avec laquelle il fera naufrage. Il a affronté durant 85 jours la mousson avant d'échouer aux îles Chagos, accueilli à l'île Maurice. Il a mis 3 ans à reconstruire un bateau pour reprendre la mer vers l'Afrique du Sud et les Antilles.
Mmh. Vous avez un extrait de ce livre de Bernard Moitessier sous les yeux, François. Auriez-vous l'amabilité de nous en lire un petit extrait?
Cette mousson du sud-ouest fut un enfer pour l'utile. Je devais préparer à lire, en fait. Je m'étais préparé à parler.
Vous pouvez lire en parlant, si vous
voulez. Je réessaye.
Allez-y.
On coupera un. Cette mousson du sud-ouest fut un enfer pour l'unité que nous représentons déjà. Un enfer au sein duquel l'idée qu'il pût exister autre chose ailleurs n'effleurait même pas l'esprit. C'est l'éternité des vents contraires et des coups de vent entrecoupés de calmes plats trop courts pour que la mer puisse s'apaiser. Et cela sous un ciel gris de saison, des pluies qui en bannissaient la plus belle divinité du matin, le soleil. Je ne devais plus être tout à fait un être humain. À la fin de notre première semaine dans l'océan Indien, une espèce d'animal aquatique plutôt mu par un instinct. Il faudra repasser pour la ponctuation.
Non, c'est très
Bernard Moitessier, Vagabond des mers du Sud.
Alors, j'ai pas lu toutes les biographies de navigateurs solitaires, mais celle de Bernard Moitessier qui m'avait absolument ébloui. Pourquoi est-ce que vous aimez ça, vous, ces bios-là?
Ben là, en l'occurrence, Bernard Moitessier, ce que j'avais bien aimé déjà, c'est qu'il était parti tout simplement avec du riz et des oignons. Et donc il a fait le tour du monde avec du riz et des oignons, il a mangé que ça.
À bord d'un bateau qui défiait les lois de la navigation.
Voilà, complètement, mais évidemment sans un instrument de bord. Et puis à la fin de sa course, quand il est arrivé, j'ai bien aimé le fait qu'il reparte. Parce que c'est vrai
qu'en fait, il participe à une course autour du monde, voilà, en solitaire. Il a franchi la ligne d'arrivée en premier et il ne s'est pas arrêté.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est ça qui fait peur. Bon, moi, j'ai fait deux fois une transat. Une fois à quatre, et puis une fois avec un marin professionnel, Tanguy de la Motte. Mmh. Et c'est vrai que quand on est parti du Havre, on est arrivé au sud du Brésil, ça fait peur, en fait, quoi.
Oui.
Parce que quand on arrive directement, y a tous les bateaux viennent vous chercher en mer. Et on était tout seul pendant 24 jours, et puis en un coup, il y a tout le monde qui arrive, et puis et voilà, c'est envahissant, quoi. Ça, ça fout complètement la trouille.
C'est le retour sur terre ferme qui fait peur, plus que l'aventure.
En plus, c'était un ponton flottant. Mmh. Et en arrivant au Brésil, ils m'ont filé une petite caipirinha. On n'avait rien bu pendant 24 jours. Et la caipirinha plus le ponton flottant, je suis vite retourné sur le bateau, quoi. J'étais ni bien sur le bateau, ni bien sur la terre ferme. Et en fait, j'aime bien être un peu entre les deux, quoi.
Vous préférez la voile comme compétition ou la voile d'une manière plus contemplative ?
Non, plus contemplative. Ouais. Non, la compétition, c'est une opportunité qui s'est mise, mais non. Ce que j'aime bien, c'est rentrer dans les ports, sortir dans les ports, puis discuter avec les gens, l'entraide. Et puis, je pense que la mer, c'est encore un des derniers endroits où on peut être libre. Ouais. Je dis toujours à mes enfants, si vous voulez être libre, il faut être responsable. Mmh. Et inversement, si vous voulez être responsable, il faut que vous soyez libre aussi. Mmh. Et c'est vrai qu'en mer, si vous jetez un papier en rue ici, vous faites choper, c'est pas cool. En mer, vous pouvez décider de le lancer. Il y aura personne pour vous dire que vous pouvez pas le faire. Et moi, j'aime bien en fait me mettre mes propres limites. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire.
Vous avez une passion pour la voile que vous pratiquez depuis vos 10 ans. La vapeur ne vous a jamais tenté ?
La vapeur ? Non. Ouais, c'est une bonne question, Antoine. Tu viens me chercher sur. Bon, si évidemment qu'elle m'a tenté, je suis pas complètement. Il faut rester ouvert à tout, ouais. Bien sûr. Mais je préfère la voile à la vapeur.
D'accord. Il y a pas de navigateur belge.
Quel âge, toi, Antoine ?
65.
Pas de problème.
Ah, vous n'êtes pas regardant, c'est pas une question.
Non. Okay. Je m'intéresse à tout le monde.
Il y a peu de navigateurs belges, hein, pays où l'on ramasse pourtant beaucoup de moules.
Ouais, il y a Jean-Luc Van Den Heet qui est quand même pas le dernier. Hein.
Oui, mais enfin pas énormément, c'est pas très répandu.
Et il vient de gagner le Tour du Monde dans l'autre sens.
Ok, autant pour moi.
Pour moi c'est un des plus grands navigateurs. Il est d'une humilité folle, la preuve c'est que.
Le Tour du Monde dans l'autre sens, ça veut dire quoi le Tour du Monde à l'envers?
Ouais, c'est-à-dire que d'habitude on part vers le Cap. Ouais. Et puis on fait le tour par l'Australie.
Et lui, il l'a fait dans l'autre
sens.
Et
là, il est parti vent contraire, quoi.
D'accord.
Sur des bateaux comme dans les années 60-70, quoi.
D'accord.
Et donc, ils ont mis 8 mois. Et il est arrivé et il a fait très peu de déclarations comme ça. Et c'est un ancien enseignant belge qui habite à Nantes.
Bon, voilà pour le livre. Pour le film, vous avez choisi Monquette. C'est un film de François Damiens, vous, hein, pas le régicide, sorti en mai 2018. Charline Monquette, c'est mon fils, en français, parlez-nous-en. Pas de mon fils, hein, du film.
C'est l'histoire d'un baraqui qui s'échappe de prison pour reconquérir le cœur de son quête et lui enseigner tout ce qu'il peut en cavale. Particularité de l'objet, 25 des personnages présents dans le film ne savaient pas ce qu'ils faisaient puisqu'ils étaient filmés en caméra cachée.
Il est où ton papa ?
Il est là.
Et oui, il est là. Et maintenant, il partira plus. Vous êtes avocate ?
Je suis avocate, oui. Et si j'ai besoin de votre signature ?
What's about ? Ça parle de quoi ?
Votre fils. On veut pas qu'il fasse la même chose, hein ?
Comment la même chose ? On va fonctionner en binôme. On va monter une entreprise. Quand tu commences à courir, t'as du mal. Quand tu commences à fumer, ça fait mal.
Vous lui apprenez à fumer ?
C'est un projet que... Ou ça, on a un projet commun.
C'est la première fois que je vois ça de ma vie.
C'est un peu bizarre.
Monquette, François Damiens, si vous choisissez ce film, François, parce que, dites-vous, c'est celui que vous avez le plus vu dans votre vie. François Damiens aime regarder François Damiens ?
Non, pas spécialement, mais c'est vrai que pour ce film, en fait, comme c'était une histoire évolutive et chronologique, on a monté au même moment qu'on tournait, quoi. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé à la fin, 660 heures de rush, vous imaginez ? Et normalement, un film, c'est entre 20 et 30, je pense, ou moins, ou 30 et 40, mais là, on est... Et parce que moi je voulais que l'histoire évolue, mais il fallait évidemment sélectionner les gens, les piéger, pour faire évoluer l'histoire, et pouvoir que ce soit crédible et que ce soit cohérent, quoi.
Vous réunissiez toutes les difficultés possibles au cinéma, c'est-à-dire à la fois de la caméra cachée et de la fiction, nécessité de fiction.
Ah, donc, c'était sincèrement.
Qu'est-ce que vous avez appris d'ailleurs avec Monquette ?
Ben, Ben, j'ai appris que c'était extraordinaire de travailler en équipe, quoi. C'était un rêve pour moi de pouvoir imaginer une histoire et puis de mélanger la télévision au cinéma. Et j'ai appris mon équipe de caméras cachées avec laquelle je travaille depuis 20 ans. Et puis je l'ai associé à tous des chefs de poste avec lesquels j'avais tourné. Et mélanger la télévision et le cinéma, c'est pas si évident. C'est un peu comme mélanger de l'eau avec de l'huile, quoi. C'est, on peut boire de l'eau et on peut boire de l'huile, mais boire les deux en même temps, c'est plus compliqué.
Lesquels sont les plus gras entre la télévision et le cinéma?
C'est-à-dire, non, mais ce qui était compliqué, c'était que le cinéma, qui est un peu prétentieux, entre guillemets, regarder la télévision un peu de loin en disant, on fait pas une émission, on fait un film. Ça s'explique en deux secondes, quoi. Et puis, il y avait la télévision qui répondait au cinéma, mais t'es déjà venu sur un plateau de caméra cachée? Non, bah alors de quoi tu parles en fait? Et moi j'étais un peu au milieu. Et en fait c'était rigolo parce que au début du film j'ai choisi les gens avec qui je voulais travailler. Et puis je me suis retrouvé au milieu d'un entre guillemets un petit merdier, quoi. Mais non, mais il commençait à avoir des coalitions, des trucs. C'était compliqué. Et puis j'ai été dépassé un peu par le nombre en fait. Parce que sur les caméras cachées, on est 7-8, quoi. Ouais. Ici, on était 50-60, quoi. Pour le son, on est une caméra cachée. Ouais, il y a une personne.
Ça ne signifie pas le travail.
5-6. Ouais.
Bon, passons à la série. Nous avons un film, passons à la série. Pour la série, vous avez choisi ça. Rien. Voilà, rien. Pourquoi ce choix?
Parce que j'ai pas le temps de regarder des séries.
D'accord. Alors, dans le supermarché géant de la pop culture, nous avons choisi pour vous Légumane. C'est une série télévisée belge fictive, diffusée à partir de 83 à l'intérieur de la vraie série télévisée pour la jeunesse Téléchat. Charline, ce légumane, c'était un légume doté de super pouvoirs. C'est pour ça qu'on disait en Belgique qu'il avait la frite.
Ouais, enfin lui, en l'occurrence, il était plutôt légume vert et feuille de salade. Un super-héros combattant de super-vilains tels qu'un aspirateur, un mixeur devenu fou, un pantalon, une veuve noire ou encore un mur.
Voilà qu'au supermarché, les légumes sont en danger. Une cuisinière surchauffée veut tous les ébouillanter. Les carottes sont-elles cuites? Non!
Légumane! Légumane!
Légumane! Vous le mettez dans votre panier quand même, légumane?
Ouais. Mais ça m'intéresse, c'est un truc à
part. C'est la première fois que vous entendez ces sons. Hein.
Oui, tout à fait.
Parce que vraiment, vous ne regardez pas les séries, ni la télé.
Sincèrement, je n'ai jamais même pas regardé un bout d'épisode. Quoi.
C'est pas une posture. C'est-à-dire, vous ne regardez pas parce que ça ne vous intéresse pas.
J'ai jamais décidé que je ne regarderais pas de séries, mais je ne l'ai pas fait, donc il faut croire que je fais autre chose à la place.
C'est chronophage d'observer les gens aussi, j'imagine.
Ah, c'est ce que je préfère. Mmh. Et ce qui est difficile, c'est qu'avec mon pied, en fait... Au début, je pouvais bien les regarder, les gens, quoi. Je me rappelle, à 15-16 ans, je me suis même fait choter par des jeunes ados, enfin, j'avais plutôt 12-13, parce que je les regardais. Et je dévisage les gens, mais je regarde leurs chaussettes, leurs lacets, tout, la ceinture, les yeux. Et voilà, ça prend du temps, déjà. Mais apparemment, je peux avoir un petit regard. Ça peut paraître pour un regard condescendant ou un peu hautain, alors que c'est pas du tout, c'est juste de l'observation pure. Mm-hmm. Moi, c'est ce que je préfère faire au monde.
Et si vous ne regardez pas de séries, vous ne regardez pas de films, vous regardez quand même les films dans lesquels vous jouez?
Bon, pas spécialement, non. Ben, en l'occurrence, Fourmi, j'avais pas trop envie de le voir, quoi. Mm-hmm. Parce que...
Pourquoi ça vous met mal à l'aise de vous regarder?
Mais vous avez déjà imaginé écouter votre répondeur sur votre téléphone. Mm-hmm. C'est désagréable quand on vous dit « Merde, je me suis trompé, je me suis appelé », et puis on lui dit « Alors, vous regardez, c'est une heure et demie où... On se sent pas bien en sortant, quoi. Il faut mettre du déo, quoi. c'est pas agréable du tout. Et au plus, le film est proche de moi. Mm-hmm. C'est classe, en l'occurrence, ici, parce que c'est un père alcoolique sans boulot. Tu vois, mais
un autoportrait, quoi.
C'est ça, un rôle de composition. Non, mais c'est vrai que c'est... Autant regarder une caméra cachée quand je suis grimé, déguisé, ça me pose pas de problème. Mais quand j'ai l'impression quand on me filme en train de prendre ma douche ou aux toilettes ou je sais pas, j'ai l'impression que au moins il y a de filtres, au plus c'est compliqué pour moi.
Bien François, terminons cette pop-list avec votre chanson culte et cette chanson c'est celle-ci.
Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Jacques Brel, Jacques Brel, Les Vieux Amants, un morceau de 67 que vous écoutez. Je vous observais avec beaucoup de gravité.
Ouais, ça me fait pas rire.
Ah mais c'est pas drôle.
Non.
Ça vous émeut toujours?
J'écoute Brel depuis que je suis tout petit en fait. Mmh. Je me rappelle quand j'étais petit avec mes parents, mes frères et sœurs, on avait loué un mobilhome aux États-Unis, on avait fait un tour. J'ai mis Brel tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais 12-13 ans et depuis je l'écoute tout le temps. Et c'est Brel, quand j'écoute, en fait, si je suis pas bien, je me sens encore plus mal. Et si je suis bien, je me sens encore mieux. Mmh. Et je sais pas,
Vous avez réussi à comprendre ce qui vous touchait à ce point chez Brel?
Ouais, mais c'est cette envie de liberté qu'il a. Je supporte pas être cadenassé, je déteste
les liens de subordination, qu'il a appliqué à la fin de sa vie en partant sur son bateau.
Là. Ah ben là, je rêve d'y aller aux Marquises. Là. Mais il faut 3 semaines, quoi.
Ouais.
Parce qu'on met 3-4 jours pour aller, 3-4 jours pour revenir. Et puis une fois que vous êtes là, vous ne pouvez pas repartir direct, il faut voir un peu tout ce qu'il y a.
Ouais, mais sur les
et 3 semaines, c'est pas évident quand on a des enfants, donc j'ai toujours pas été. Mais je rêve d'y aller, quoi. En bateau, idéalement, quoi.
Vous réaliserez ce rêve, François Damien, ce jeu résume Vagabond des mers, Monquette, Jacques Brel et Légumane. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Il est où ton papa?
Il est là.
Et oui, il est là. Et maintenant, il ne partira plus.
Bien sûr, nous eûmes des orages.
C'est l'éternité des vents contraires et des coups de vent entrecoupés de calmes plats.
What's about? Ça parle de quoi?
Légumane!
On va monter une entreprise.
Vous lui apprenez à fumer?
C'est un projet commun.
C'est la première fois que je vois ça de ma vie.
Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour.
Et voilà ce qui tourne dans la tête de François Damien en ce mercredi 28 août 2019.
Ouais, c'est pas faux.
Vous y retrouvez?
Ah ouais, complètement, ouais.
Bon, ben ça tombe bien parce qu'on va continuer dans ce joyeux mélange avec la suite de Pop Pop Pop, juste après un morceau extrait du tout dernier album de Richard Hawley, Further.
Tu as des grandes feuilles, Antoine?
J'ai quoi?
Des grandes feuilles.
Des grandes feuilles pour écrire?
Non. Oui, pour écrire.
Et le titre, c'est Alone.
Saint-Père, Pop Pop Pop, Antoine Decaune.
Et c'était Richard Hawley, Alone, extrait de Further, son quatrième album. François Damiens, puisque nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, revenons à nos moutons, comme disent les légionnaires. Aujourd'hui, vous venez nous présenter Fourmi, le nouveau film de Julien Rapneau, adapté du roman graphique Dream Team de Mario Torrecillas et Arthur Laperla. Cette fourmi, c'est votre fils qui joue aussi bien sur le terrain qu'à l'écran, et cette fourmi va vouloir vous éloigner de votre penchant pour la bibine et de tous vos problèmes en vous faisant croire qu'il a été sélectionné à Arsenal. Bande annonce.
Il a fait ça pour son père, pour le sortir de son trou.
Mais t'as pas à t'occuper de lui, t'es pas responsable de tout le monde, hein.
Et cette fois-ci, vous allez vous battre.
C'est mon truc, la bagarre.
Tellement merdé toutes ces années. Mais là, je vais y arriver.
La fourmi, y a pas un insecte qui a autant le sens du collectif. Tout pour la survie de l'équipe. Il va comme un grand surnom.
C'est un discours de papa, ça.
Fourmi de Julien Rapneau. Alors, question classique, François Damien, c'est quoi le plus dur, jouer avec des enfants ou des animaux?
Ici, en l'occurrence, c'était pas compliqué de jouer avec Malone Paquin, parce que c'est un petit enfant qui est tout à fait normal, entre guillemets. C'est pas, je pense qu'il est là pour les bonnes raisons, et puis il est très bien encadré par ses parents. Et donc, c'est un enfant... il est plus facile que la majorité des acteurs adultes, quoi. Mm-hmm. Il était complètement normal, il est tanké, il est basé, il est carré, il est sain dans sa tête. Et,
ça durera pas.
Pardon ?
Ça durera
pas. J'ai pas l'impression que ça va durer non plus. Il va vite devenir comme nous.
Mais sinon, à défaut de choisir entre les enfants et les animaux, c'est quoi le plus dur, jouer avec Eric Ramsey ou avec Benoît Poelvoorde ?
Ouais, c'est compliqué comme question. C'est vraiment compliqué. Benoît, il ne joue pas spécialement, en fait. Il est tout le temps Benoît. Mm-hmm. Donc, comme je le pratique depuis longtemps, je suis un peu accoutumé. Et Eric et Ramsey, on avait joué ensemble très longtemps, puis j'ai refait un film avec Ramsey. En fait, le truc, c'est qu'on est resté entre guillemets des enfants, mais c'est même pas des adolescents, quoi. Mm-hmm. C'est des petits garçons, quoi, de rien du tout. Je me dis toujours, j'ai 46 ans aujourd'hui, je me disais, mais je me rappelle quand j'avais 46 ans, quand mon père avait 46 ans. Ouais.
C'est un adulte.
Oui, c'est un adulte. Et moi, je vois les blagues qu'on fait, mais c'est même pas dans les cours de récréation. Il faut même plus ça, quoi.
C'est une qualité indispensable pour jouer, non?
Je sais pas. J'ai l'impression qu'on a toujours besoin de tourner tout à la dérision. On peut être sérieux à certains moments, mais c'est vrai que moi, je sais pas rester sérieux longtemps, quoi. Là, après l'émission, j'aurais besoin de prendre un peu le large, quoi.
Alors, si on veut trouver un point commun entre Monquette et Fourmi, c'est qu'il s'agit à nouveau d'une histoire de paternité, l'histoire d'un père qui essaie de faire pour le mieux et qui fait tout le contraire. C'est un thème qui vous touche, ça, particulièrement?
Ouais, il n'y a rien qui me touche plus que ça, je pense. C'est un peu comme quand vous avez un enfant qui vient vous montrer son dessin qui est pas beau, ou quelqu'un qui vous reçoit et qui a cuisiné toute la journée et c'est mauvais. Moi, c'est un peu comme quand on voit parfois des gens, ah, tu étais voir le petit Arthur à l'hôpital. Et alors, tu le trouvais comment? Moi, c'est impossible de trouver un enfant en lait, quoi. Et j'ai toujours eu du mal avec évidemment, une maman, quand elle essaie de mettre son fils au monde, elle essaie de faire le plus beau des bébés. Mm-hmm. Et quand on cuisine et quand on fait un dessin et quand on fait quoi que ce soit, je trouve ça moche de voir quelqu'un qui met tout son cœur dans quelque chose. Ouais. Et ça marche pas. Alors là, je me fissure.
Et en particulier quand c'est une relation entre un père et son fils.
Oui, parce que c'est quelque part, ça parle de transmission, mais ici je dirais plutôt que ça parle de retransmission, parce que à un moment, quand le père Laurent dans le film, mon personnage, s'abandonne, mais évidemment il se retrouve abandonné. Et puis quand il y a plus personne, il y a plus que les enfants, quoi. Et on met les rôles les enfants dans des postures impossibles, quoi. Ils deviennent les parents de leurs parents, quoi. Ouais,
ouais. C'est ça la particularité de celui-là par rapport aux autres films que vous avez faits qui parlaient de filiation et de transmission. Comment ça se traduit, ça, sur un plateau, quand d'un seul coup c'est l'enfant qui devient l'adulte?
C'est assez particulier, quoi. Moi, avec Malome, dans le film, je lui disais toujours, regardons-nous dans les yeux, quoi. Ne jouons pas, on sait ce qu'on doit dire chacun. Et vivons on n'est pas là pour jouer, on est juste là pour vivre ce qu'on ressent et en essayant. Enfin, moi, j'ai pas fait d'études de cinéma ni de théâtre ni de comédie, donc j'ai juste mon instinct, j'ai pas la technique, quoi. Ouais. Et lui, il a pas fait d'école non plus de comédie, donc on était obligé d'être bah, un moins vrai, quoi. Ouais. Et à un moment, cette véracité, j'espère, du moins dans le film, j'espère qu'elle transpire, ah oui, elle ou elle transpire
un peu.
Mais il faut savoir aussi que c'est pas un film triste, quoi. C'est parce que
non, pas du
quand
tout,
on dépeint le personnage, ouais, la relation, c'est un peu, c'est un peu pathos, quoi.
Bah,
mais c'est un film qui est, franchement, j'étais le voir avec ma femme et mes enfants. Je voulais pas le voir. Julien Rapto m'a coincé un jour au Burger King de la gare du Midi, de la gare du Nord, pardon. Et là, j'étais obligé de le voir. Et c'est vrai que je les ai regardés pendant tout le film, mais ils rigolaient, quoi.
C'est un film qui joue sur les deux registres. C'est ce qu'on appelle ce terme barbare de dramédie. Il y a du drame et il y a de la comédie dedans.
Mais j'avais entendu un feel good.
Feel good movie.
Voilà, c'est ça que j'ai cherché. J'adore ce mot.
Mais ce principe, c'est quelque chose qui traverse en même temps toute votre filmographie. Il y a toujours aussi une dimension tragique dans vos rôles comiques. On a l'impression que vous assurez à la fois l'Auguste et le clown blanc tout seul.
Ah, mais j'aime pas rire pour rire, en fait. J'aime pas les blagues, par exemple. Mm-hmm. Mais j'aime bien partir d'un truc profond, un truc sérieux, un truc qui fait mal, qui... Ben oui, douloureux. Et puis de là, en rire, quoi. Mais j'aime pas la pleure de banane, moi, ça me fait pas trop rire, quoi.
Ouais.
Et ici, ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que on peut le regarder à travers le prisme d'un enfant, d'un adulte, mm-hmm, d'un grand-parent, d'un... Tout le monde, évidemment, il n'y a pas de permis pour être père, quoi. Mm-hmm. Je veux dire, tout le monde est père qui veut, évidemment. Après ça, il y a celui qui assure pas, c'est ça qui... J'espère qu'il n'y aura jamais de permis, parce que dans une société où tout le monde est...
C'est difficile de jouer quelqu'un comme votre personnage qui est tombé dans la gourde.
Oui, c'est difficile. Mais oui, j'avais un peu peur, en fait. C'est un peu la seule peur que j'avais. Hein, parce que quand j'ai rencontré Julien Rapneau, je l'ai adoré directement. J'ai l'impression que c'était un cousin, un frère, quelqu'un que je connaissais depuis toujours. Et moi, ce qui me faisait peur, c'était le fait qu'il picole, quoi. Parce que jouer quelqu'un qui
quand
boit...
c'est mal joué, c'est catastrophique.
C'est triste, souhait, quoi. Mais c'était une comédie, donc il fallait en faire un peu, mais pas trop. Donc je disais, laisse-moi en faire une toute douce, quoi.
Je ne sais pas si c'est un compliment, mais vous le jouez à la perfection.
Bah, c'est un rôle de composition, Antoine.
Moi, j'ai ouï dire que votre expérience de la chose avait été très précoce. Une histoire de... Vous étiez enfant, perdu dans un supermarché, et vous avez été retrouvé dans un endroit bien particulier.
Ah ouais, t'es voir les annales.
Ouais. Bah, racontez, je vous en supplie, vous étiez où?
Un jour, j'étais au Deleuze. Deleuze, c'est un peu comme un Leclerc en France, près de chez moi, avec ma mère. Et moi, j'adore les supermarchés, j'adore faire des courses, tout ça, je suis un fou de ça. Et ma mère m'avait perdu. Et donc, elle arrive à la caisse, elle paye, et puis elle ne me voit toujours pas. Et donc, ils ont fait un appel au micro. Et moi, j'étais parti dans les réserves du supermarché, je n'entendais pas le micro. Et donc ils m'ont retrouvé, j'étais assis sur un bac de bière et je finissais les fonds des vidanges de bière.
Alors vous aviez déclaré il y a quelque temps, au journal Le Parisien, préférer les comédies qui reposent sur des sujets graves pour éviter le ton sur ton. On est en plein dans le mille là avec Fourmi.
Bah oui, c'est vrai que c'est un film qui peut paraître sur papier, même quand on voit la bande-annonce, un peu tristounet, un peu mélancolique, un peu dur. Et en fait, la façon dont Julien Rapneau l'a traité, c'est un film qui s'avère être léger, et on se prend à rire, parce que, quelque part, par exemple, quand on voit le père qui vient voir son gamin jouer au foot, et qu'il arrive bourré comme un tank...
Il fout la honte
à un point pas possible. C'est triste en soi, mais ça redevient marrant, quoi.
Ouais.
Donc on bascule de la tragédie à la comédie. Et ça me fait vraiment penser... En fait, moi, quand j'étais petit, j'étais un peu, à certains moments de mon adolescence, gêné de mes parents, quoi.
Mmh.
Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que mes enfants sont gênés de moi, quoi. C'est bizarre. Pourtant, j'ai l'impression d'être cool.
Non, ils sont gênés, mais... Qu'est-ce qui les gêne le plus?
Pire, quoi.
Qu'est-ce qui les gêne le plus, vos enfants?
Bah, c'est que je leur fous un peu toujours la honte, quoi. Quand ils invitent un copain à manger, par exemple, à table, je sais même pas comment je peux l'expliquer.
Mais ça fait partie des privilèges des parents, si on peut pas un peu mettre la honte à nos enfants.
Pourquoi t'as une personne à la maison? On me dit, mais t'as déjà vu quand j'invite quelqu'un ce que tu fais?
Et qu'est-ce que vous faites?
je vais pas dire que c'est subtil, mais c'est pas... Je pas le gros bourrin à table, quoi. Ouais. Mais je fais des tout petits trucs. Je ne divers pas. Tu vois, des tout petits trucs où... Parce que je fais
des choses
les blagues où tu peux même pas dire que c'est une blague. Parce que, tu vois, c'est comme si je te présentais, je présente Jean-Antoine. Tu vas pas dire, ah non, je m'appelle pas Jean-Antoine, je m'appelle Antoine. Mais en attendant, le mec, après ça, il pense que tu t'appelles Jean-Antoine. Et tu vois, j'aime bien quand tu peux pas le dire, en fait.
Ouais,
le truc où c'est tellement bête que ça a rien de le soulever. Mais en attendant, c'est là et ça reste, quoi.
Et pour en revenir au film, au-delà des soucis du père, le film est inscrit dans une réalité sociale assez dure, une zone sinistrée en matière d'emploi. Un contexte qui a aidé à travailler l'humanité des personnages, comme le dit Julien Rapneau, votre réalisateur.
Ben oui, mais à la fois, une fois de plus, Pierre
Cottreau... Mais dit comme ça, ça a l'air d'être tragique, mais en fait, ça amène quelque chose de particulier.
Oui, parce que on n'est pas à Liverpool, quoi, dans le film. Et on n'est pas non plus dans les beaux quartiers. Je trouve qu'on est dans un truc normal, qui n'appelle pas de commentaires. Et tout ça, éclairé par Pierre Cottreau, avec qui j'avais la chance de tourner, qui est un super chef opérateur, qui a réussi, c'était au Témoin d'un doute, on a fait ensemble, et puis ici... C'est deux films pour moi qui appartiennent un peu à la même famille dans ma tête. Et je trouve qu'il a réussi à faire des images qui sont chaleureuses, qui sont chaudes. Ouais. Justement dans ce que le film pourrait avoir un peu douloureux, il a réussi à travers sa lumière à le rendre doux et cocoonesque. Cocoonesque.
Cherchez ces mots-là.
Merci Charlène.
Vous avez aussi déclaré récemment que vous...
J'ai déclaré plein de trucs aussi à la
fois. Vous en dites des choses.
Faire ce que vous dites, parce que c'est repris à chaque fois. Il dit que vous rêviez de jouer un gros dégueulasse ou un tueur en série. Alors j'ai l'impression que ça ne mord pas tout à fait pour le tueur en série, mais quid du gros dégueulasse?
Gros dégueulasse, je crois que j'aurais pas assez avec ma vie pour jouer des gros dégueulasses. C'est ce que je préfère faire, quoi. Je me dis
ce sera la somme de tous ces personnages.
Ben oui, mais je pense que pour moi l'élégance, c'est tout ce qui ne se voit pas en fait. Mm-hmm. C'est pas la personne qui ouvre la portière, qui met une belle chemise avec un col bien abidonné. C'est pas ça l'élégance pour moi. Elle est très très subtile.
Elle est morale.
Voilà. Et donc quand je joue un grand dégueulasse, c'est pour dénoncer tous les trucs dont on peut pas parler, un peu comme le harcèlement ou les trucs. À partir du moment où on met son doigt dedans, on est foutu, quoi. Dire à son employeur, tu me regardes pas bien, c'est impossible à dire, parce qu'évidemment ça sort contre vous à la seconde, quoi. Vous me parlez pas bien, vous me considérez pas, mais on peut pas dire ça. Ouais. Et c'est tout ça que j'ai envie de, à travers les personnages dans les caméras cachées ou dans les films, c'est cette espèce de petite abus de pouvoir misérabiliste, quoi. C'est la tristesse humaine, quelque part. Quoi.
France Inter, le maxi-best pop-pop-pop, Antoine Decaune.
Et Charline Roux. On parle de pop, de culture, et de pluie violette dans la suite de pop-pop-pop. Oui, pluie violette, c'est la version de Purple Rain, mais interprétée par les créatures du cabaret de Madame Arthur. Vous avez un doute? Il ne faut pas, vous allez être rassuré dans un instant. Juste après Sexual Healing, c'est une version non pas de Madame Arthur, sinon ça donnerait guérison sexuelle, mais version Marvin Gaye.
Wake up, cause you do it right. Baby, I got sickness more.
Le Maxi Best Pop 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 sur France Inter.
Nous parlons aujourd'hui de Madame Arthur. Charlie Voodoo, Brenda Moore, Lola Dragonesse et Clochette, vous êtes les créatures et non pas les créateurs du cabaret Madame Arthur, parce que sinon vous seriez plus que septuagénaire, ce cabaret mythique de Paris qui doit son nom à cette chanson.
Madame Arthur est une femme qui fit parler dès le longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame, elle eut une foule d'amour.
Madame Arthur, chanson de Paul de Kock, interprétée par Yvette Guilbert en 1850, et entre 1946 et 2019, le pitch est-il toujours le même ?
Le pitch.
Le pitch
bah,
de Madame
on connaît
Arthur.
L'histoire de cette chanson, déjà, qu'est-ce que c'est ? Madame Arthur, elle cache sous sa robe un je ne sais quoi. Et en fait, Madame Arthur était un homme. Et elle cachait. Voilà. Et c'est ce pourquoi elle était
l'horrible
très connue.
Secret.
C'est pourquoi elle était très connue et très célèbre. Et en partant de rien, l'histoire, c'est une espèce de demi-mondaine. Qu'en partant de rien, elle était très connue, très appréciée de la gente masculine parce que c'était un travesti, tout
d'accord.
Simplement.
Mais l'idée, c'est de mettre en lumière le patrimoine de la chanson française chez Madame Arthur.
Oui, maintenant, oui, c'est vraiment le credo.
Et en chantant live, surtout parce qu'il y a eu pas mal d'années où c'était du playback, voilà. Comme chez Michou. Mais maintenant, effectivement, la différence, c'est que nous avons des musiciens merveilleux, tels Charlie, des chanteuses plus ou moins merveilleuses.
La moins, c'est qui?
C'est en live, c'est ça qui est intéressant. Et on se réapproprie le répertoire, c'est-à-dire qu'on ne, si par exemple, on a un thème, je sais pas, Michel Polnareff, on réadapte, en fait.
Est-ce qu'on n'est pas là en plein dans la pop culture?
À mort.
À fond.
Complètement, oui.
Total.
On y entre un petit peu, parce que avant, c'était un peu tabou, tous les spectacles de travestis.
Alors, on est à fond ou on entre un petit peu soyez précis.
On a mis un pas, déjà. On rentre à peine dans la pop culture.
C'est vrai.
Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas du tout de la pop culture. Il y a aussi des espèces de joyaux de la langue française, des très vieilles chansons inconnues qui sont des fois chantées. Il y a aussi du répertoire contemporain. Des poétesses d'aujourd'hui, ou nous-mêmes, on compose aussi, des fois, on écrit. Et puis, il y a des traductions en français aussi, là, qui sont qui sont pas de l'ordre du patrimoine. Et bien sûr, il y a du matrimoine.
Qui choisit le répertoire et comment les rôles sont attribués ?
Bonne question.
Joker. Non.
qui choisit, c'est un peu tout. On propose, il dispose. Et il propose... Et impose.
Oui, c'est un savant aller-retour de propositions.
C'est-à-dire qu'on a une troupe quand même qui est composée d'une quinzaine de personnes. En fait, ça tourne.
À forte personnalité, j'ai l'impression.
Oui, très fort.
Pas du tout. Ouais.
On est cassé sur ça, nos personnalités, plus que sur nos capacités à chanter. Enfin, je parle pour moi encore une fois. Enfin bref, on a une grande troupe, donc ça tourne. Donc après, effectivement, c'est une question d'organisation, qui peut faire quoi, à quel moment on est libre. Donc voilà, après, c'est pas vraiment du ressort de notre choix. Souvent, c'est plus de comment on peut le faire, quoi. Voilà.
Vous incarnez dans le cabaret des créatures dites chimériques. Alors comment est-ce qu'elles sont nées et quels sont leurs CV?
Alors comment elles sont nées? Pour ma part, c'est né d'un Paris. D'un Paris au départ, j'étais dans une pièce où. Une pièce qui s'appelle Les Rois des Kings, des musiciens un peu foireux, et qui passent une audition parce qu'ils n'avaient plus de travail. Et on dit, mais on cherche un groupe de jazz. Et les potes, ils disent, mais t'as qu'à y aller en bonne femme.
C'est ça, Black It Hot.
Et donc, non, pas moi quand même. Et puis là, donc, du coup, je crée ce personnage de Brenda Moore, je vais à l'audition, on est pris, et du coup, je suis obligé de faire croire à tout le monde que je suis une femme dans l'histoire de ce spectacle.
Ah là là.
Et deuxième pari, les potes m'ont dit, t'es pas capable de sortir dans la rue comme ça. Je fais, ah, non, c'est chaud.
Ça, c'est certain.
Et
même chaud,
un soir, samedi soir, je me suis préparé. J'étais à ma voiture. J'ai mis une heure pour sortir de la voiture. J'avais peur.
Vous habitez quel quartier ?
Moi, j'habitais dans le 19e, mais il fallait aller à Pigalle, il fallait un truc chaud, il fallait aller à un endroit chaud. Quoi.
Okay.
Donc, je vais à Pigalle, je trouve une place et je reste une heure. Je peux pas, je vais rentrer chez moi, j'ai trop la honte. Je sors en courant, j'arrive devant le truc et on me fait bonjour, beauté. Et là, je reviens pas quand on appelle de beauté. Et là, l'histoire a commencé et j'ai vécu des belles choses avec ce personnage.
Clochette, votre personnage à vous?
Alors, moi, j'avais deux personnages avant. J'avais un personnage qui s'appelait Perox, qui était une peroxydée, très punk. Et puis après, j'avais Sylviana, qui est une chanteuse d'un groupe, qui est de mon groupe Boboon Fever. Et puis, bon, j'utilisais ces deux personnages, je jonglais. Et un jour, pendant un workshop de Rebecca Chaillon et Elisa Montaigne, j'ai fait une performance où en fait je parlais des violences faites aux enfants et je disais que pour réparer toutes ces violences qu'on peut avoir subies quand on est enfant, peut-être que pour pouvoir rayonner comme ça en société, on peut faire telle une peau d'âne, se verser, et là je me mettais toute nue, je me versais des pots de miel sur le corps.
Waouh!
Et après, je mettais un seau de paillettes et j'étais comme ça et je disais, et là, comme ça, je peux rayonner et personne ne peut me toucher et je suis clochette et je rayonne et je suis là. Je suis la marraine des enfants perdus. Et Clochette est née, voilà, à ce moment-là.
Wow. C'est normal de rayonner quand on est couvert de miel.
Voilà.
Rayon, miel, ruche, ok.
Ah, je l'avais pas. Oui,
Charlie Boudou, c'est à vous. J'existe. Depuis, il existe, elle existe, on ne sait pas trop. Depuis une dizaine d'années, moi j'ai commencé avec le cabaret burlesque, le striptease burlesque, qui d'ailleurs, c'est important de le dire, est né au Divan du Monde, mm-hmm. là où nous sommes maintenant. Ça a commencé là, le tout début. Mais c'est pas le sujet. Et pourquoi ce nom ? Aucune idée. J'aime beaucoup ce prénom, Charlie, qui n'est pas le mien, que j'aurais aimé avoir. Et Voodoo, ça a commencé parce que mes premières performances, j'ai toujours été fasciné par tout ce qui était cauchemar et tout ça. Donc c'est toujours des chambres d'enfants avec des poupées partout. Mmh. Et que je défonçais. Mmh. Et j'ai toujours une fascination pour les poupées Barbie que je défonçais aussi. Voilà. Donc il y a toujours eu ce truc avec les poupées qui me fascinait. Et du coup, c'est venu bien.
Lola Dragonnaise, vous défonciez des dragons, donc vous.
Oui, voilà. Non, j'ai surtout dévoré ma sœur jumelle à l'intérieur de maman. Et puis du coup, avec la mauvaise conscience, je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose pour elle quand même. Et enfin, nous avons grandi ensemble.
Je suis sûr que voilà. C'est vrai. Ça.
C'est vrai.
Et du coup, ouais. pas d'alimentation solide depuis 73. Ceci explique.
Non, liquide. C'est très bien, le liquide.
Vous incarnez des personnages tellement forts qu'on se demande ce que vos tenues de scène vous permettent de dire, faire, que celles du quotidien ne vous permettent pas. On a l'impression que vous êtes comme ça dans la vie, en fait.
Bah, il y a un peu de tellement ça.
Plus en plus. C'est vrai que moi, le personnage m'influence beaucoup dans ma vie, permet de me libérer, de rayonner. Mais non, quand même, il y a des choses sur scène, qui c'est la transposition, en fait. C'est la représentation qui permet que le discours, il aille au-delà.
C'est
alors
le fantasme, en fait.
Parce que dans la vie, on est quand même empêché et on peut se reprendre. Ça peut être dangereux d'être comme ça dans la vie, en fait.
Vous avez une identité au civil, j'entends.
Oui, bien sûr, ouais. C'est bien de partir en vacances de soi-même, comme ça, et faire des petites pauses.
Oui, puis c'est bien comme ça, on a un spectre de personnalité extrêmement large.
Moi, j'adore sortir dans la rue comme ça, en fait.
Oui, moi aussi.
Pour un pied fou.
Oui, la nuit.
C'est amusant.
Non, même le là, jour. Pour venir dans la rue, en fait, quand je suis comme ça dans la rue, même à Pigalle, quand je marche comme ça, et je me dis, oh, enfin, ça fait du bien.
Oui, mais entre le cabaret et un taxi, vous n'auriez pas à faire vos courses.
Mais ouais, voilà, faire le marché comme ça, je veux dire, ça met trop de temps.
Je sais. Faire le marché décolleté sur cette question de genre, mais évidemment, il y a une question qui me taraude depuis longtemps. Est-ce que l'homme est une femme comme les autres ?
Absolument, parce que je pense que l'identité masculine, la construction de l'identité masculine, c'est une chose absurde. Enfin, c'est vraiment une construction. Voilà, donc en fait, quand on s'habille en femme, on touche à un truc très sensible. Et vraiment, ça dérange les gens. C'est pour ça que moi, je suis vraiment très fier d'être un travesti.
Oui.
Parce que j'ai l'impression justement que ça pousse les mentalités un petit peu. À un moment donné, on se dit, voilà, on est sublime, voilà. Hein. Mais c'est vrai que l'identité masculine, c'est une
puis se permettre,
qui est
très
fragile.
C'est une sorte de se permettre d'exprimer cette partie féminine. Je pense que l'homme idéal, maintenant, c'est plus pas celui qui est... celui qui a un peu de douceur, un peu... Les femmes recherchent ça, maintenant.
Vous ne voyez pas à la radio, mais enfin, l'homme qui est en train de vous parler avec cette belle voix basse et couvert de plumes mauves.
Hein. Violette,
comme la fameuse pluie, d'accord. Est-ce que vous seriez même jusqu'à être d'accord avec la définition de copie qui dit un homme est une femme déguisée d'un soupçon de virilité ?
Absolument.
Oui.
Ah oui.
Mais ce serait bien si c'était comme ça, disons.
Et pour le dernier live de l'émission, Charlie Voodoo, Brenda Moore, Lola Dragonnaise et Clochette, je vous laisse vous installer sur la scène mythique de Pop 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 et vous attaquer cette version donc de Purple Rain qui devient pluie violette, si mes informations sont bonnes.
Exactement.
Vous avez du niveau dans le casque ?
Oui.
Vous êtes prêts ?
On est prêts.
Attendez, je vous donne le signal. 3, 2, 1.
Jamais je n'ai voulu te causer le moindre chagrin. Jamais je n'ai voulu volontairement te faire du mal. Ça tu peux me croire. Je voulais te voir sourire juste une seule fois et te voir enfin ruisselant sous la pluie violette, pluie violette, pluie violette. Pluie Bébé, je sais, il y a longtemps que mon tour est passé. Il est peut-être encore temps de prendre un nouveau départ. Là, je joue plus. Tu dis que tu rêves d'une femme forte, alors dis-moi, qu'est-ce que t'attends? Ne cherche plus et laisse-moi t'emmener sous la pluie violette. Pluie violette, pluie violette.
Violette, la version française de Purple Rain, en live sur la scène de Pop Pop Pop. C'est signé de la troupe de chez Madame Arthur. Brendamour était au chant et Charlie Voudou au piano. Merci, merci aux créatures du cabaret de Madame Arthur, donc, et à François Damiens, qui était aujourd'hui à l'affiche de ce Maxi Best Pop. Merci aussi à toute l'équipe de Pop Pop Pop. Lundi, on se retrouve pour le dernier Maxi Best Pop avec l'icône pop américaine Bret Easton Ellis, la dessinatrice Catel et les bébés brunes. Mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur France Inter. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse, bien sûr, à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit Henri, mon cochon qui stresse de se faire bouffer pendant les fêtes. Oui, d'accord, oui. Ça veut dire abonnez-vous à notre podcast.